Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière du Saint-Esprit, accordez-nous de penser ce qui est droit selon ce même esprit et de jouir toujours de ces divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Alors, Dieu soit béni. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, sainte année. Là, ce qu'on ne s'est pas revu depuis, même si déjà, ça va tellement vite. On est déjà à la fin. Enfin, on approche en tout cas la solennité de notre saint fondateur. Donc, on va plutôt se souhaiter, avant la solennité, la fête de saint François de Sales. Je rappelle au passage qu'on peut gagner l'indulgence, hein, qu'il est un des patrons protecteurs de la guerre d'honneur. Et puis, c'est surtout, et c'est ce pourquoi... comment dirais-je, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous, c'est que c'est ouvert, donc le 27 décembre dernier, l'année jubilaire, hein, où on va, comment dirais-je, rendre grâce. En tout cas, l'Église nous donne l'occasion, pendant un an et demi, de creuser notre amour du cœur de Jésus à travers les trois grandes apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie et qui se clôtureront en 2025 avec la fête du Sacré-Cœur. Donc normalement, au fond, alors... Même si on a commencé les travaux et que la chapelle est plus ou moins ouverte le matin mais fermée l'après-midi, vous avez, il y a un peu d'écho, je n'ose pas trop. Vous trouverez des tracts qui annoncent, qui vous donnent les grandes dates. Et du coup, voilà ce que je me suis proposé de faire aujourd'hui, et ça tout le long de l'année, de reprendre avec vous toutes les apparitions et de faire sortir, donc on va commencer celle du 27 décembre 1673, et de faire ressortir, en fonction de ce que dit notre Seigneur, des thèmes. Donc par exemple, là aujourd'hui, le 27 décembre, pourquoi il apparaît, est-ce que le Seigneur qui s'inscrit par son incarnation dans notre temps, pourquoi il apparaît en 27 décembre? Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il a une idée derrière la tête en apparaissant le 27 décembre? Ou en fait, c'est tout à fait il a choisi une date parmi les dates. Enfin, non, je ne crois pas. Le Seigneur ne fait pas mine. Hein, en tout cas, s'il est rentré, c'est lui qui est à l'origine du temps et il ne fait pas fi du temps. Au contraire, les dates disent quelque chose. Et si on peut aussi se l'appliquer pour soi. Du coup, avoir une attention à nos dates. Hein. Il y a des fois, on reçoit telle grâce, tel jour. On a par exemple un rendez-vous important, tel jour. Moi, je vais systématiquement voir la parole de Dieu. Tiens, qu'est-ce que vous voulez me dire? Voilà. Et puis après, quand c'est l'anniversaire, on repasse sur cette date. On se souhaite un joyeux anniversaire. Comme on peut aussi, à travers les épreuves, rendre grâce. Toute épreuve est une grâce, même si voilà, il faut décoder l'épreuve. Mais ce jour-là, il s'est passé telle chose, et bien ça m'a fait aller jusque-là. Et je passe pas tous les ans. C'est comme le deuil d'une personne, c'est la même démarche. Et du coup, on va d'anniversaire en anniversaire comme ça. Et le Seigneur parle à travers les dates. Hein. Parce que c'est une façon de s'enraciner dans le concret. Hein. Aujourd'hui, justement, on n'a plus de dates, les jours vont très vite, on ne sait plus, on voit bien, les repères sont... les heures sont... on ne fait plus les choses, on ne mange plus à la même heure, on mange quand on a faim, il n'y a plus d'heures qui construit la vie familiale. Ça paraît comme ça anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Hein, il y en a qui sont très intelligents à faire tous ces calculs pour faire perdre justement tous ces repères. Hein. Donc voilà ce que je me propose de faire aujourd'hui avec vous. Voilà. À la fin, j'espère ne pas l'oublier, j'ai des petites intentions à vous confier et aussi une nouveauté, on va dire, que j'ai mis en place en prenant le temps dans la prière, mais vous ne recevez plus le mail, et ça je voudrais en parler, de relance pour la formation. Et du coup, j'aurais un petit peu m'expliquer à ce sujet. Et je vous ai aussi sorti un texte du père Maxime Longchamp qui commente la déclaration Fiducia Supplicans. Le père Max Hugo de Longchamp est un érudit qui est à l'origine d'une ce qu'on école, une école spirituelle, un centre spirituel Saint-Jean de la Croix, dans le près de Chartres, près de, oui, c'est ça, Chartres, et voilà, qui est un homme, enfin, entre guillemets, qui n'est pas en soutane. Donc on ne va pas lui coller l'étiquette d'être tradit. Et j'ai trouvé que, en tout cas nous, on nous l'a donné, il est venu nous faire une retraite, il avait aussi parlé à la garde d'honneur il y a des années. Et du coup, la présentation, comment on peut accueillir ce décret, avec l'ambiance dans laquelle on est, j'ai trouvé ça super, souvent ça nous a beaucoup, enfin j'ai trouvé ça super. Et parce que tout ce qui est donné des dicastères n'est pas, comment dirais-je, on n'oublie pas, sans notre intelligence, on va dire, hein, la foi va avec l'intelligence, même si notre foi, l'intelligence est au service de la foi. Mais le texte, dont j'ai fait quelques photocopies, s'il y a besoin de plus, je cours à la photocopie, j'en ferai d'autres. C'est un moyen, en tout cas, il donne les moyens de discerner quelle doit être notre obéissance par rapport à de tels textes qui ne sont pas des petits textes. Hein, il y a toute une portée, mais aujourd'hui il y a un enjeu à avoir une obéissance ajustée, hein, et on ne prend pas les armes pour autant, si ce n'est les armes de la prière, parce que là ça nous invite encore plus à la prière pour l'Église, au-delà du jugement, hein, je ne suis pas là-dedans, donc voilà. Mais comme dit le père Maxou de Longchamp à la fin, quand c'est flou, quand on ne sait plus y voir clair, ben il faut aller là où on voit clair. Hein. Le flou, la désunion, le trouble, la confusion sont des armes qu'on avait vues utilisées par Lucifer. Donc voilà, il faut pas. Là aussi, on ne se met pas la tête sous la cloche. On est attaqué. La Sainte Vierge l'avait dit à la Salette. Hein, elle n'est pas descendue de son ciel simplement pour. Enfin, faut tenir compte de tous ces messages qui sont plus reconnus par l'Église, hein, que l'Antichrist s'assirait sur le trône du Vatican. Donc, c'est la Sainte Vierge, c'est pour moi pour une fois. Mais par contre, après, moi, les conclusions, vous les tirez si vous voulez. Je vais rien dire là-dessus. Mais par contre, il y a des gens qui ont l'intelligence, en tout cas, qui la mettent au service de la foi. Et le père Maxou Longchamp, allez voir sur Internet. C'est vraiment quelqu'un qui il parle comme un livre. Il a une connaissance de l'histoire de l'Église et surtout de l'histoire spirituelle. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui il est au service de l'Église. Dieu donne des hommes de cette trempe. Voilà. Alors, je reprends avec vous le récit de la première apparition. Donc c'est le 27 décembre 1673, en la fête de Saint-Jean l'Évangéliste, que pour la première fois, Jésus manifeste son cœur à sa confidente. Celle-ci est en prière devant le Saint-Sacrement. Soudain, elle se sent envahie par la présence divine, puis comme l'apôtre bien-aimé à la dernière scène, notre Seigneur la fait longuement, en vision, reposer sur sa poitrine, et lui découvre alors les merveilles de son amour et les secrets de son cœur. Il lui fait donc connaître l'ardent désir qu'il a d'être aimé des hommes et de les retirer de l'abîme de perdition où Satan les précipite. Aussi veut-il leur manifester son cœur avec tous ses trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut. Il demande à cette fin qu'on l'honore sous la figure de ce cœur de chair. Il réclame que l'image de celui-ci soit publiquement exposée pour toucher le cœur des hommes. Et partout où cette image sera placée pour y être honorée, il répandra ses grâces et bénédictions. Cette dévotion à son cœur constitue comme le dernier effort de son amour, pour apporter la rédemption aux hommes, les retirer de l'empire du démon et ruiner celle-ci et rétablir enfin son amour dans les cœurs. « Mon cœur, et c'est à ce moment-là qu'il dit, déclare-t-il à sa confidente, est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. Et je t'ai choisi pour l'accomplissement de ce grand dessein. » Et tandis que donc Marguerite Marie reçoit ce message, le cœur de Jésus lui est montré. Il apparaît comme un trône, tout de feu et de flamme, plus brillant et plus rayonnant qu'un soleil, et transparent comme un cristal. La plaie qu'il reçut sur la croix y paraissait visiblement. Il était environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres de nos péchés, que nos péchés lui faisaient, et une croix au-dessus qui signifiait que, dès les premiers instants de son incarnation, c'est-à-dire dès lors que ce Sacré-Cœur fut formé, la croix y fut plantée. Puis après, à ce moment-là, le Seigneur lui dit, Jésus ayant demandé son cœur à sa confidente, le prend et le met dans le sien, puis l'en retire comme une flamme ardente et le remet dans le côté de la mystique, et pour qu'elle ne puisse pas douter de la vision qu'elle a reçue, elle éprouvera toujours désormais une vive douleur au côté et souffrira d'une soif intense. Voilà, le sceau, c'était pas... Parce que Sainte Marguerite Marie, elle était très gratifiée de grâce sensible. Elle a toujours été, durant toute sa vie, dans un continuel sentiment d'être dans l'illusion. Hein, donc, s'il fait le pendant, on va dire, hein, ça équilibrait les grâces qu'il a placées au-dessus de ses sens. Alors voilà. Donc, de cette apparition, j'attire en tout cas, on va attirer notre attention sur le 27 décembre. Et on peut s'étonner pourquoi le 27 décembre, en sachant qu'il a fait reposer sur son cœur. Donc on en connaît un aussi qui, et son nom est tout le monde attaché à cette date, c'est Saint Jean l'évangéliste. Et du coup notre Seigneur s'y choisit le 27 décembre, c'est pas tout à fait anodin, hein, il veut faire passer un message, voilà, hein, le disciple bien-aimé Saint Jean qui lui aussi a reposé sur le cœur de Jésus. Et quand Saint Jean repose sur le cœur de Jésus, il est en train de donner sa vie au cours de ce repas, parce que la passion sur la croix est précédée de son offrande par la première messe, hein, la scène, par son offrande à travers le pain et le vin. Hein. Jésus n'aurait jamais pu, en tout cas, se donner sur la croix avant de s'être donné en nourriture. Ces deux offrandes s'entreportent. Hein. Il ne s'est pas donné que sur la croix, il s'est d'abord donné dans ce pain et ce vin qui devient son corps et son sang. Et alors voilà, ce disciple pose, Saint Jean avait son oreille collée à sa poitrine, donc à son cœur. Et voilà, qu'est-ce qu'il a pu entendre, hein, nous-mêmes quand on vit quelque chose de douloureux, de mortellement douloureux, parce que le Seigneur savait très bien, il n'a pas découvert sa passion quand il est arrivé au pied de la croix, il la savait, et il, sans l'avoir vécu, en tout cas il la connaissait, et bien, quels étaient les sentiments de son cœur? Et Saint Jean va avoir cette grâce de reposer son oreille, hein, tout son être sur ce cœur, et qu'est-ce qu'il a pu entendre? Et du coup, c'est Sainte Gertrude d'Efta qui dira à notre Saint Jean, pourquoi vous ne nous avez pas manifesté le cœur de Jésus dans les évangiles, hein, voilà, pourquoi vous ne nous avez pas dit plus, hein, dans les évangiles, hein, de ce battement, de cette angoisse qu'il a dû justement entendre à travers cet événement de poser la tête sur la poitrine de Jésus. Et c'est Jésus qui dira... que si Saint Jean, le disciple bien-aimé, n'a rien révélé dans son évangile de ce qu'il a ressenti à ce moment, donc c'est ce qu'il dit à Sainte Gertrude, c'est qu'il se réservait d'en parler plus tard, à une époque où le monde commencerait à se refroidir. Voilà. Donc en 1673, Jésus révèle son cœur à Sainte Marguerite Marie, et le 27 décembre, c'est une réponse, hein, justement, on va dire, à l'absence de Saint Jean dans son évangile. Il n'a pas révélé tout, hein, parce que Jésus suppléait à ce moment-là, à travers la première apparition à Sainte Marguerite Marie. Hein. Il apporte à travers cette première apparition ce qui manque, on va dire, à l'évangile de Saint Jean. En sachant qu'il manque bien sûr rien à l'évangile de Saint Jean. hein, mais il apporte un plus. Pourquoi? Parce qu'on a la nuque raide, c'est tout. Voilà, on a, l'évangile ne nous suffit pas. Hein, on n'a pas encore compris tout l'amour qu'il nous porte et qu'il fait aller jusqu'à la croix. Et donc, bah, alors, du coup, bah, toujours l'amoureux par excellence, Jésus supplée en se révélant le 27 décembre à Sainte Marguerite Marie. Et pour éclairage, on va dire, justement de ces dates que je vous disais, qui sont marquantes dans nos vies, hein, que ce soit des joies ou des peines, des anniversaires, eh bien, on vient de fêter Noël, donc cette incarnation du Verbe, et je voulais juste en profiter pour vous partager que j'ai trouvé ça, enfin, on le redécouvre tous les ans, mais et d'autant plus avec cette affaire de date, je trouve ça bouleversant de voir que le 25 décembre, qui correspond au solstice d'hiver, est utilisé par Dieu, hein, c'était une fête païenne avant l'incarnation, était choisie par les païens, c'était la naissance du soleil. Et je trouve ça, mais alors, il n'y a que Dieu qui peut l'inventer, utilise un 25 décembre, où c'est la nuit la plus longue, pour révéler justement cette fête de la lumière, qui est la lumière du monde, la naissance du vrai soleil, le soleil de justice. Il va, voilà, l'évangélisation, on va dire, hein, de toutes ces fêtes païennes. Et pour vous montrer qu'il ne fait pas fi des dates, hein, il a choisi ce 25, il savait très bien comment on pouvait retourner cette signification de la naissance du soleil pour les païens qui étaient du coup des idolâtres. Et nous, voilà, le soleil par excellence, et notre saint fondateur, hein, l'appelle le sacrement des sacrements, hein, ce soleil. C'est la Sainte Eucharistie, hein, c'est la Sainte Messe, c'est le Saint-Sacrifice de la Messe. Et voilà, vraiment le diamant a plusieurs facettes avec lequel on peut regarder ces dates. Hein. C'est vraiment ses pensées. Et dans nos vies, c'est la même chose. Nos dates, les dates avec lesquelles il nous rejoint, dans lesquelles il nous rejoint, sont pensées par Dieu et de toute éternité. C'est pas un hasard, ça tombe, voilà. Et toujours, au début, on se rattrape comme à des branches, puis petit à petit, vous allez y rentrer, et puis vous finirez par vous dire, non, je suis de plein pied avec le mystère de la providence. Au début, on est obligé de se dire, c'est providence. Alors, voilà, on essaie de rentrer là-dedans, mais petit à petit, vous dites, ben non, fais compte, s'il me parle ce jour-là, c'est qu'il a choisi ses dates et c'est pas anodin. Donc, à moi d'y trouver un sens, donc à travers la parole de Dieu, à travers, des fois, nos familles, la vie de nos familles. Hein. Voilà pour le 27 décembre. Après, si j'avance dans la présentation de l'apparition, et ça, ce sera pour toutes les apparitions. Elle était en prière devant le Saint-Sacrement. Voilà. Donc ça, je ne vais rien vous apprendre que le Sacré-Cœur est lié à la présence eucharistique. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, en tout cas nous, on nous y invite dans l'ordre que ces apparitions, je ne vais sûrement rien vous apprendre de nouveau. Par contre, c'est la grâce du jubilé, c'est d'approfondir le mystère du Sacré-Cœur pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend? Parce que c'est un mystère, c'est une présence. Comme je disais, c'est un trou de lumière. Donc, il vous donnera de percevoir quelque chose de plus cette année en 2024 de son Sacré-Cœur que vous n'avez pas encore approché depuis que vous le connaissez, qu'il est rentré dans votre vie, le Sacré-Cœur. C'est pas comme c'est Dieu, on n'a jamais fait le tour de la question. Il faut toujours dire, bah, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à me dire avec ma situation qui est celle d'aujourd'hui? Donc j'ai pris un peu d'âge, j'ai une situation plus douloureuse à vivre, je suis à un tournant de ma vie, enfin voilà, il y a plein de... où les enfants grandissent, au contraire, ils partent de la maison, je me retrouve toute seule, tout seul ou toute seule avec mon mari ou ma femme. Et du coup, ce sont des étapes. Hein. Alors, pour expliciter qu'elle se trouvait en prière devant le Saint-Sacrement et qu'à chaque fois le cœur de Jésus va se révéler, se montrer à travers ces trois grandes apparitions, toujours quand elle sera en présence du Saint-Sacrement, eh bien, donc ce culte du Sacré-Cœur honore d'une manière particulière et invite à contempler le mystère de l'acte d'amour de Jésus instituant l'Eucharistie. Voilà. Donc quand on est devant le Saint-Sacrement, quand on est à prier à l'oraison, voilà, on est dans ce cœur à cœur avec Jésus, ça nous renvoie aussi à cette, et c'est aussi notre heure de présence qui nous renvoie normalement à la présence eucharistique, hein. Pour vivre joie et peine, on se met en présence d'un tabernacle, hein, de la présence réelle. Et le plus grand de tous les sacrements, le Saint-Eucharistie, en livrant son corps et son sang glorieux à son Église, il laisse aux hommes le sacrifice d'amour de la croix, ainsi que sa présence substantielle au milieu d'eux, donc de nous, les invitant sans cesse avec nous aux noces de l'agneau. Hein, on est tous, donc à chaque fois qu'on est en somme en présence du Sacré-Cœur, on est comme propulsé, on est en même temps en présence justement de son sacrifice sur la croix, hein, où là il nous témoigne le plus grand amour. Et c'est aussi ce qu'on vit quand on va à l'Eucharistie, à chacune des messes, on est invité aux noces. Hein. Donc là aussi, dans quelles conditions j'y vais, hein. Donc apparaît toutes les apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie ont lieu en présence du Saint-Sacrement. Le cœur de Jésus est rempli d'un amour fou qui l'a poussé à se donner lui-même sous les humbles apparences du pain et du vin. Dans l'acte du plus grand amour, celui-ci, celui de la croix, c'est cet amour de son cœur qui nous est rendu présent dans l'Eucharistie. Voilà. Donc quand on reçoit Jésus dans l'Eucharistie, on reçoit bah, justement ce témoignage, hein, le témoignage de son amour. Et puis, j'aime beaucoup cette citation que je vous partage de Mère Teresa qui disait « Quand tu le regardes sur la croix, tu vois comme il t'a aimé il y a 2000 ans. Tu vois comment il t'aime quand tu le regardes dans l'Eucharistie. Tu vois comment il t'aime aujourd'hui. Voilà. » Et les deux se tiennent. Hein. On ne peut pas les dissocier l'une de l'autre. Puisque c'est dans l'Eucharistie que Dieu nous aime le plus, en nous donnant son cœur, c'est là aussi qu'il attend le plus notre amour en retour. Il est toujours assoiffé de notre amour, comme sur la croix. Voilà. Donc, aujourd'hui, on met beaucoup l'accent hein, sur... parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Ça, ça c'est impressionnant. Mais bon, quand il n'y a plus Dieu dans la vie des gens, c'est un peu normal. Hein. Eh bien... Alors on va montrer, on va plutôt, comment dirais-je, montrer ce cœur qui veut consoler. Alors je ne suis pas contre, c'est sûr qu'il va apporter beaucoup de consolation, déjà rien que le fait de savoir qu'il donne sa vie sur la croix pour moi, hein, qu'il soit aussi nourriture pour moi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'autre versant hein, de la montagne sur laquelle il va mourir. C'est si je te manifeste mon amour à chaque Eucharistie, voilà, je te fais, en tout cas, je me donne à toi jusqu'à être ta propre substance. Eh bien, je te demande en retour de m'aimer. Voilà, c'est un devoir. Hein. Pour un zélate, pour un garde d'honneur, c'est pas une option. Aujourd'hui, on présente justement cet amour qui nous aime. Ben, voilà, tu rends si t'as envie, quoi. Ben non, c'est un devoir d'amour. On reçoit, et cet amour qu'on reçoit, on doit lui rendre. Hein, et rien garder en retour. Et du coup, on recevra tout. Mais comme on est blessé par le péché originel, on a tendance à garder au passage. Et du coup, toute la dimension de purification qu'on va être amené à vivre, et qu'on verra plus tard, mais ça va avec. Hein, c'est, faut pas s'en inquiéter, ça fait partie du chemin. Mais voilà, la justesse de cette prière que Sainte Marguerite Marie fait en présence de Jésus exposé dans son sacrement d'amour, le Saint-Sacrement, eh bien, si c'est une invitation à se laisser remplir par son amour, c'est aussi une invitation à tout lui redonner. Hein. Et il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui, comme on souffre beaucoup, on montre Jésus source de consolation. Mais il attend, avant d'être la source de notre consolation, d'être aimé. Et parce qu'on l'aimera gratuitement, on sera consolé. Au-delà des sens, hein, peut-être dans votre sensibilité, mais on ne cherche pas la consolation pour la consolation. Notre saint fondateur dit, vous aimez les consolations du consolateur ou le consolateur hein, qui donne des consolations. Si on s'arrête à la consolation, quand il n'y en a plus, eh ben on lui tourne le dos. Et notre dévotion au Sacré-Cœur ne va pas durer longtemps. Et ce qui se passe, c'est que ben, j'ai été garde d'honneur 1 an, 2 ans, j'avais déjà eu du mal à l'être 3 ans, et puis après j'ai laissé tomber. Alors c'est vrai que c'est... vous signez... Il n'y a pas de durée, hein, on va dire. Mais c'est comme pour le baptême, on ne se fait pas débaptiser, même si on en entend parler. Mais c'est complètement absurde. Normalement, il faudrait vous détruire. Pour détruire la... Bénissez un monument qui est lié au culte, pour détruire, pour enlever la bénédiction, il faut le détruire. Hein. Sinon, il est profané. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nous? Voilà. Donc, ça n'a aucun sens. Hein. Mais, ce retour qu'il ne nous faut pas oublier. Et la preuve, c'est que Sainte Marguerite ne va pas l'oublier. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui suit après? Soudain, elle se sent envahie par la présence divine. Voilà la vraie consolation. Hein. Elle est dans la gratuité. Ben aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que la gratuité. Hein. Mais il nous faut toujours pareil. Moi, on sent dans l'évangélisation qu'on utilise des nouveaux mots. D'abord, même le décret Fuducia Supplicans invente des mots. Hein, parce qu'il nous faut, pour rejoindre les gens qui... on a perdu le sens, en fait, compte, hein, des mots, alors on en invente d'autres. Bon, moi, je dirais que je ne suis pas assez intelligente pour vous en inventer. Je préfère reprendre, en somme, tout le langage qui est lié à la vie spirituelle qui a passé les ans. Par contre, il nous faut les recharger de sens. Voilà. Et c'est ça la démarche de se laisser envahir par la présence de Jésus pour réparer, en somme, pour lui rendre amour pour amour. Hein. Et Sainte Marguerite Marie, qui se place dans cette démarche de prière devant le Saint-Sacrement, rentre dans cette gratuité. Et la gratuité, si on connaît plus ce que ça veut dire, ben c'est pas pour autant qu'il ne faut pas en vivre. Et du coup, elle existe, en tout cas, elle doit exister dans la dévotion au Saint-Sacrement à travers le Sacré-Cœur. C'est qu'on n'attend rien en retour. On aime sans espérer quoi que ce soit. Si on aime en espérant quoi que ce soit, eh ben je suis désolée, on n'aime pas, on s'aime d'abord soi-même. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est déçu en général. Parce que ben justement, j'ai pris 1 heure d'adoration, je souffre, alors là, il faut que Jésus me console, quoi. Donc, je lui parle de toutes mes souffrances, je ressors de l'heure, j'ai pas été consolée, quoi. Donc, pourquoi j'ai pas été consolée? Parce que je m'étais projetée une consolation qui corresponde à ce que moi, je pense, dans ma sensibilité, avoir le droit d'obtenir de la part de Jésus. Alors, comme vous êtes déçus, désolée, mais personne ne sait ce qu'il lui faut. Seul Dieu sait ce qu'il lui faut. D'où le mystère de la Providence. Donc, je prends 1 heure d'adoration. Parce que je souffre et j'ai besoin de dire à Jésus que je l'aime et que je souffre dans ce qu'il me demande. Par contre, après, je mets un point à la fin de ma phrase et je ferme les guillemets. C'est terminé après, j'en rajoute rien. Et j'attends. Et je veux perdre mon temps avec lui. C'est « je veux ». Non, c'est « j'ai pas d'ordre à donner à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sinon ?» Ben, je me mets au-dessus. Et du coup, je me fais « Dieu pour moi-même ». Non, et là on est obligatoirement à côté, hein, et on n'obtiendra du coup aucun avancement dans la vie spirituelle. Au contraire, on va continuer de couler, on continue de souffrir. Et là, on accusera bien sûr le bon Dieu de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Alors que lui, il donne, en fait, compte. Il donne. Alors il donne peut-être en vous laissant continuer de souffrir. Mais dans la souffrance, il se passe beaucoup de choses. J'ai pas dit que c'était facile, attention. Hein. En disant ça, je dis pas aimer la souffrance. Ah, non, non, aimer Jésus dans la souffrance. Pas la même chose. La souffrance traverse toutes nos vies. Hein. Moi, la première. Même si je suis une religieuse heureuse, en tout cas j'espère, d'en être un témoin. Mais je veux dire, voilà, la souffrance, elle fait partie de ma vie. Et si elle n'y était pas, je la demanderais. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance qu'il me purifie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit on ne sauve pas sans la souffrance. Alors, En rentrant au monastère, je ne suis pas rentrée pour moi, sinon je ne serais jamais rentrée. Je suis rentrée pour Jésus et pour sauver des âmes. Quand Sainte Thérèse vous dit, comment dirais-je, on ne sauve pas les âmes sans la souffrance, alors je m'en invente pas, j'ai qu'à prendre, comme dit Père Guibert, le menu de chaque jour. Hein, Dieu est assez bon pour, vis-à-vis des âmes, pour sauver les âmes, pour me donner ce qu'il me faut chaque jour. Je mets pas, en plus, c'est pas salésien. Hein. Mais mystérieusement, ben, j'ai ce qu'il me faut. Hein. Mais dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais c'est, alors là, on est dans, complètement dans l'illusion. Quoi, hein. Et, donc, la souffrance fait partie de toutes les vies. Par contre, c'est comment je vais l'interpréter, comment je vais la vivre. Et si je dis oui à Jésus dans la souffrance, et même s'il la continue alors que je lui demande de l'ôter, ben c'est, je ne l'accuse pas de ne pas m'entendre. Tu fais il ne m'entend pas, il ne m'obéit pas, il ne m'exauce pas. Ah non, non, ce n'est pas possible, c'est son être. Il est amour, tout ce qui vous arrive est pour votre bien. Que vous ne le compreniez pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, on ne peut pas accuser Dieu de s'être trompé, c'est pas possible. Il est le bien par excellence. C'est son être. Par contre, faut décoder, donc faut prendre du temps, faut passer du temps avec lui, faut prendre du temps avec lui. Et puis surtout, on va dire, abandonner nos schémas. Donc, rentrer dans une gratuité. J'arrête d'imaginer ce qu'il a le devoir de me donner. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec Sainte Marguerite Marie, l'amoureuse par excellence, elle se place devant le Saint-Sacrement. Et puis, donc voilà, Jésus se manifeste. Et elle est dans cette gratuité de rien attendre. Et ben voilà, elle est investie par la présence divine. Et c'est ça que je vais maintenant évoquer avec vous plus longuement. Qu'est-ce que c'est que la présence divine? Alors ça, je l'emprunte ce passage à un petit livre qui est fait par Étienne Doudille et qui, maintenant il n'y en a plus de comment dirais-je, d'imprimatur, mais là c'est un livre qui comment dirais-je, reçoit l'imprimatur, donc c'est 1962, c'est un petit détail mais ce n'en est pas aujourd'hui, voilà. C'est juste avant la tourmente au niveau de la doctrine. Et du coup, on peut accueillir sans se dire où est-ce qu'il faut que je passe, mettre un filtre pour ne pas me faire intoxiquer. Je suis désolée, aujourd'hui, on est quand même là. Quand on lit, il faut faire attention aux dates, à quel moment ça a été écrit et par qui. Voilà. Parce que il est facile de fausser les consciences sur la vérité qu'est le Christ. Et après, on est troublé, on est perturbé dans sa vie spirituelle parce qu'on a lu des mauvais livres, hein, ou on a regardé des mauvais films. Et si on veut rester dans cette gratuité de l'amour, il nous faut faire attention à ce à quoi on lit et ce à quoi on regarde. Alors, vous serez comme des dieux. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Voilà, on l'a vu en long et en large. Voici donc, et pourtant, c'est un verset du psaume, hein, on le chante aussi, hein, et c'est une parole de Dieu, en somme, hein, et du coup, on est appelé à devenir comme des dieux, à être comme des dieux. Même si Lucifer va tenter, nos premiers parents avec cette parole, et bien ceci dit, de fait, voici donc que cette promesse mensongère faite à l'origine du monde par le tentateur, c'est l'infini lui-même, dans son immense amour, qui la réalisera gratuitement. Pour saint Paul, c'est là le grand mystère, hein, caché depuis le commencement du monde, dans les insondables profondeurs de Dieu. Comment ce grand mystère nous sera-t-il révélé? C'est la raison profonde de la venue du Verbe incarné parmi nous, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous connaîtrons la pensée de Dieu, ses mystères cachés, ses merveilleux desseins. Je saurai que Dieu s'est fait homme qu'en moi, en restant Dieu, et qu'il veut que je devienne Dieu comme lui, en restant homme. Voilà. Je vais rester homme, mais par contre, j'aurai justement cette participation à la vie divine, et du coup, je serai comme un Dieu divinisé, tout en restant homme. Et c'est tout l'enjeu, hein, de la vie spirituelle. Ce merveilleux dessein fera toujours notre étonnement ici-bas, parce qu'il dépasse absolument tout ce que nous pourrions concevoir de plus beau. Pour réaliser ce rêve divin, quelle nouveauté le Christ apporte-t-il sur la terre? Ce qu'il nous apporte, son don le plus précieux, c'est une vie nouvelle. Une vie nouvelle qu'il désire infuser dans les veines de la vieille humanité pour rajeunir son âme et transfigurer son visage. Mais à travers chacun de nous. Voilà. Et ça, il dit bien Sainte Marguerite Marie dans la première apparition, « Je t'ai choisi. » Voilà. Et quand vous êtes venu un jour faire votre inscription à la garde d'honneur, vous ne l'avez pas entendu, mais en tout cas, il avait en tout cas sur vous, il a posé ce choix. Je t'ai choisi. C'est pas vous tout seul qui vous êtes. Oh, je suis tombée sur le track, j'ai trouvé ça sympa et j'ai fait mon inscription. Ah non, non, c'est désolé. En amont, et combien le disent? C'est un petit livret que j'ai reçu il y a des années, je l'ai balancé au fond. J'ai eu un témoignage comme ça, je l'ai balancé au fond d'un tiroir et je me suis empressée d'oublier. Et puis un jour, j'ai eu un gros problème, une grosse épreuve, et mystérieusement, il est remonté à la surface, le petit livret que j'avais bien planqué au fond d'un tiroir. Mais le Seigneur, il voit plus loin que son bout du nez, toujours plus, toujours. Il sait ce qu'il fait, quoi. Même quand on n'y comprend rien. L'apôtre Saint-Pierre, qui avait compris son maître, donne cette importante précision. Les dons précieux que le Christ nous promet et nous apporte, c'est une participation à la nature divine. Toute la prédication de Jésus est donc orientée vers cette mystérieuse vie de Dieu à laquelle nous pouvons participer. Et la vie de Dieu égale présence divine. Voilà. Il ne s'agit donc pas, à travers les quelques années de notre durée sur la terre, de réaliser l'homme parfait, d'épanouir notre nature humaine en cultivant la vie de notre corps, de notre intelligence, de notre volonté, toutes nos énergies, toutes nos possibilités naturelles, enfin pour réaliser ce que l'on nomme prétentieusement une belle personnalité. Même si c'est clair, il ne faut pas mettre ça non plus au panier, ça fait partie de la vie spirituelle. Mais quand même, aujourd'hui, c'est un léger déséquilibre. Voilà, il y a un culte du corps. Par contre, à côté de ça, on est tous, enfin, en tout cas, on développe de plus en plus l'internet, le lien avec l'internet, et en même temps, on voit les intelligences se ramollir, le bon sens disparaît, on n'est plus capable de faire le moindre calcul sans une calculatrice. Je vous partage ça, je suis assez, enfin. Est-ce que c'est parce que je suis maintenant chargée de la formation au sein du monastère? J'en sais rien, pourtant nos sœurs sont bien intelligentes. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui. Hein. C'est une forme d'esclavage, enfin, de manipulation des intelligences. Quand on voit nos aïeux qui retenaient des poésies aujourd'hui, enfin, d'abord on n'en récite plus, mais on ne retient plus rien. Et parce qu'on se donne plus la peine de retenir, parce que ben, Internet va suppléer, parce que vous savez bien que tout passe par Internet. Internet, c'est l'avenir, c'est la voie de secours, c'est tout quoi. Internet, c'est devenu tout quoi. Tout juste si c'est pas Dieu quoi. Et ça l'est, faut bien dire. Par contre, je vous dis, il y a un culte de la personne, du bien-être, même dans la vie religieuse. L'épanouissement de soi, c'est non, l'épanouissement de soi, c'est d'abord la participation à la nature divine, et du coup, vous serez épanoui. Tous nos problèmes trouveraient un équilibre, même de santé, l'acceptation même d'une grave maladie trouve un équilibre dans la vie intérieure. Hein. Je dis pas que le miracle est obligatoire. Non, ça fait partie du chemin, le Seigneur n'exaucera pas. Mais c'est d'abord à partir de Dieu qu'on va se comprendre et pas à partir d'Internet. Hein. Et donc ce culte, en fait compte de la personne, mystérieusement, nous diminue, nous amoindrit, nous prive de l'intelligence avec laquelle on a été créé. Hein. Alors moi, c'est une petite réflexion que je vous fais au passage, hein, mais je suis impressionnée. Et derrière, bah, du coup, vous êtes un champ sur un échiquier, ouais, manipulable. Enfin, vous réfléchissez plus, on réfléchit pour vous. Enfin, Internet réfléchit pour vous. Donc, mais c'est gravissime. Alors après, on nous dit, ah, je vais être libre, hein. Je veux rester libre. Non, enfin, vous ne l'êtes pas. C'est intelligence coordonnée. L'intelligence est une fonction de l'âme, c'est lié à l'âme, l'intelligence, la volonté et la raison. Et mystérieusement, on nous annihile avec, voilà, en nous rendant, en nous demandant peu, et du coup, on perd les facultés de notre âme, hein, alors qu'elles sont normalement censées se développer, être au service de la foi. Alors toute la prédication de Jésus est donc orientée vers cette mystérieuse vie de Dieu. Il ne s'agit donc pas, à travers les quelques années de notre durée sur la terre, donc ce que je viens de dire, il s'agit de tout autre chose, il s'agit d'élever notre nature humaine plus haut encore, jusqu'à réaliser une surhumanité. Et cette sublime élévation se fera par la grâce, qui tend à nous soulever jusqu'à nous faire passer dans la sphère du divin. Voilà. Et ce n'est pas pour les gens qui sont bardés de diplômes. Ça ne tient pas à ça. Au contraire, c'est souvent les gens qui sont petits, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ne sont rien. Alors, maintenant, ceux qui sont bardés de diplômes, ils sont aussi appelé à cet échange, hein, bien sûr, à être, on va dire, divinisé. Mais souvent, c'est pour les saints. Bah, attendez, les saints, avant d'être au martyrologe, ils étaient comme vous, sur un chemin sur lequel il fallait avancer, mourir, pour un jour être sur les autels. Sainte Faustine, de son vivant, s'est vue en vision sur les autels. C'est sûr, elle dit bien que ça a été un choc, parce que de son vivant, elle se voit justement un jour mise sur les autels. Donc avant d'être reconnue dans sa sainteté, canonisée par l'Église, il a fallu qu'elle lève son petit pied. Donc aujourd'hui, c'est présomptueux de parler de sainteté, de désirer la sainteté. Ah ben non, c'est soyez saint comme moi je suis saint. Donc désirer la sainteté, c'est accepter cet échange de vie. Il faut aspirer à la sainteté. La sainteté, c'est pas d'être impeccable, hein. C'est tous les jours, c'est pas la sainteté, ça c'est de l'orgueil, l'impeccabilité. Il faut que je sois sans reproche. Je crains même la reproche. Donc j'anticipe pour pas qu'on me fasse de reproche. Voilà. Et ça, c'est comme dit notre saint fondateur, vous engraissez votre orgueil, hein. Non, la sainteté, c'est je prends pas toujours bien la remarque, mais par contre quand on me fait une remarque, je travaille avec cette remarque, avec Jésus, à essayer de me tenir dans mon néant. Et du coup, petit à petit, l'échange qu'on évoque avec la grâce va se faire. C'est ça, la sainteté. Donc, que je sente que mon amour propre est piqué quand on me fait une remarque, non, je serai jamais sainte, parce que moi, dès qu'on me fait une remarque, je tombe en colère. Non, pas du tout. Notre saint fondateur vous dit, je vais ne pas perdre en un quart d'heure ce que j'ai mis 20 ans à gagner. C'était un sanguin, un colérique. Il démarrait au quart de tour. Voilà. Ah, c'est un des plus grands saints de l'Église. Parce qu'ils sont rares quand même, les saints, à faire des résurrections quand ils sont morts. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Saint François de Sales est un grand saint, avec Saint Jean de Chantal. Alors, méconnu, mais il n'en tient qu'à vous de le faire connaître. Mais puis à nous aussi. Mais voilà. Cette vie nouvelle dépasse les exigences de notre nature humaine. C'est sûr qu'il va falloir qu'il nous élargisse, hein. C'est clair, et c'est justement tout l'enjeu de la purification. Et qui fait mal, il ne faut pas se mentir. Ça fait mal. C'est sûr que des fois on passe, hein, comment dirais-je, souvent, moi ça a été en tout cas mon chemin et celle que je suis amenée à conduire. Quand il y a des interrogations, allez le voir sur la croix, regardez-le sur la croix. Plantez-vous devant lui et puis regardez-le. Moi j'ai fait ça des heures et des heures, à des passages de vie dans ma vie spirituelle, dans ma vie de religieuse, de jeune religieuse, où j'étais comme vous, je comprenais rien, quoi. Et puis ça faisait mal, hein. J'ai passé des heures au cœur. Il y a un grand crucifix aussi de la grille qui me fascine parce que il est tout défiguré, hein. Il ressemble à rien, hein. pour les gens qui n'ont pas un regard de foi, il est moche, voilà ce qu'on dirait. Et moi, je trouve, enfin, là, il est pour moi le serviteur souffrant d'Isaïe. Hein. Il n'a plus figure humaine. Et il nous rebute, hein. On ose à peine le regarder, il nous renvoie à nous-mêmes, voilà. Et du coup, j'ai passé des heures à le regarder, quoi. Et au début, j'étais là, pourquoi Jésus? Puis après, des heures et des heures et des jours et des jours et des mois et des mois et des années, ben on arrête de demander pourquoi. Voilà. Et on trouve mystérieusement la réponse en le regardant. Voilà. Dans mes plaies, il y a la guérison. Chacun son chemin. Mais voilà, c'est lui. Hein. Cette vie nouvelle dépasse les exigences de notre nature humaine. Et du coup, il va falloir qu'il nous élargisse, d'où les épreuves. Donc c'est pas « je t'appuie sur la tête » parce que je veux que t'en baves. Non, je t'élargis. T'es pas assez élastique. Je veux te faire rentrer ma vie, mais ça passe pas, quoi. T'es pas souple, c'est raide. C'est pour cette raison qu'on l'a nommée vie surnaturelle. Elle n'est autre que la vie même de Dieu mise à notre portée. Alors juste, je m'arrête sur le mot surnaturel. Je dirais aujourd'hui... C'est là la difficulté. J'ai une grosse difficulté, enfin, un gros obstacle, hein. C'est une grosse difficulté aujourd'hui dans notre monde, au sein de l'Église, donc dans nos vies. C'est trop humain. On veut tout expliquer, tout comprendre. Il faut bien qu'on se le dise. Dieu veut nous partager une vie, et on vient de le dire, elle est surnaturelle. Donc si on ne se place pas au niveau surnaturel pour communiquer avec lui, mais qu'on reste au niveau humain, à votre avis, est-ce qu'on va comprendre quelque chose de son langage? Alors déjà qu'il est compliqué pour notre entendement humain, c'est clair que ça risque de faire plouf à côté. Hein. Donc il nous faut retrouver cette démarche surnaturelle. Voilà. Donc la démarche surnaturelle, c'est prendre les moyens, ses moyens pour le comprendre. Il ne faut pas qu'on parte, même s'il nous rejoint, en prenant par exemple le mari, hein, pour nous rejoindre, comme Dieu a fait, hein, il a voulu passer par une créature pour nous donner son fils, donc il passe par la créature pour nous rejoindre. Par contre, nous, pour le rejoindre, il nous faut prendre les moyens de Dieu. Donc la prière, voilà, la mortification, l'ascèse. Voilà. Si on prend pas sa logique, mais qu'on reste sur la nôtre, on n'arrive pas à le comprendre. Hein. Et là, on est d'autant plus blessé. Donc, et le moyen aussi par excellence, c'est le mystère de la providence. Hein. Tout est conduit par Dieu et tout est voulu par Dieu. Même si un mystère, que je vous ai déjà dit, est un trop-plein, un mystère est un puits sans fond. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je comprends ça du mystère de la Providence, hop, je vais faire un pas. Le lendemain, le Seigneur va me pousser en me provoquant dans un autre événement pour que je comprenne à nouveau un petit truc de plus dans son mystère de la Providence. Jusqu'à ce qu'il déchire le voile qui le tient caché derrière les événements. Et ça ne se fait que événement après événement. Mais pour comprendre tout ça, il nous faut placer dans le surnaturel. Ça veut dire, nous à la Visitation, qu'est-ce que dit notre saint fondateur ? De tout aller à Dieu. Voilà. Alors, quand on nous dit ça, tout vient de Dieu et de tout aller à Dieu. Bah, vous savez, hein, il m'arrive un événement, bon, tout vient de Dieu. Je me le dis, tout vient de Dieu. Avec ça, je dois tout doit me servir à retourner à Dieu. Bon, bah, j'applique. Est-ce que j'ai besoin de comprendre? Oui, sûrement ou peut-être pas, mais il y a des moments où on ne comprend rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous ait pas demandé d'appliquer la règle. Pour, en somme, nous placer dans le surnaturel. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il nous faut comprendre pour pouvoir mettre en place. Parce qu'on vit notre vie intérieure, notre vie spirituelle, sur le même mode de fonctionnement de notre quotidien. Voilà. On va prendre le même logiciel, on va dire. Ben non, pour comprendre notre vie spirituelle, il nous faut nous mettre dans le surnaturel. Donc, ben, je comprends pas, par contre je sais que derrière il y a une démarche divine, j'accepte de lever mon petit pied, et puis après l'événement ou la compréhension de l'événement va se faire, et là il vous place dans le surnaturel. Et petit à petit, on est placé dans le surnaturel, donc on ne comprend plus les choses humainement, et c'est là que l'élasticité de notre cœur se fait. Par contre, si on se braque, c'est-à-dire que quand je dis braque, c'est-à-dire je veux comprendre pour pouvoir avancer, on est toujours sur le mode, la compréhension intellectuelle nous place dans le mode humain. Il nous faut comprendre avec un mode divin, donc avec, on va dire, l'intelligence divine. Voilà. La vie divine. Voilà. Donc c'est la vie divine, c'est la grâce. Hein, la vie divine, on l'a dit tout à l'heure. La grâce. Alors cette grâce, de toute façon, j'aurai la possibilité au cours des formations suivantes d'expliciter toujours plus cette vie surnaturelle qui était la vie des saints, on va dire. Hein. Alors, quand on voit les saints faire des miracles, on dit, mais qu'est-ce qui nous manque, nous ? On a la foi pourtant. Et l'Évangile nous dit, ben, dis à cette montagne de se déplacer, puis elle se déplace. Ben, moi, j'ai beau dire à le monticule de terre qui est dans le jardin, déplace-toi, il ne se déplace pas. Donc, je me dis, il y a un problème au niveau de ma foi. Ben oui, il y a un problème au niveau de ma foi. Eh bien, pourquoi ? Parce que la foi est une vertu, mais elle est théologale, donc elle doit être sublimée, si vous voulez. Elle doit grandir. Par quoi ? Bah, par la vie en Dieu. Voilà. Pas par une connaissance intellectuelle. Ça va aller de pair, bien entendu. Mais il y a des saints qui n'avaient, saints curés d'art, qui n'avaient rien dans la tête. Et quand Dieu voulait lui faire comprendre quelque chose, il n'avait pas besoin d'ouvrir le traité de théologie quelconque. Il l'avait dans sa tête. J'aime beaucoup Mary-Yvonne et Marie III. Pour un petit exemple, elle est fédérale, elle est à l'origine d'abord des fédérations pour sa congrégation. Elle visite ses communautés en Afrique, elle passe dans le désert, elle rencontre une tribu de Zoulou, elle se met à parler Zoulou. Et elle n'a pas le diplôme de la langue Zoulou. Ah, mais comment elle a fait ? Ben voilà, elle était toute donnée à Dieu. Hein. Elle avait, on sentait deux battements, le sien et celui du. On entendait deux battements. Le sien de son cœur et celui de Jésus. Voilà. Et comme il était fou amoureux, il lui offrait des fois. Donc dans sa cellule apparaissaient des montagnes de lys. Voilà. Vous voyez comment. Et c'est Dieu ça. Alors, il l'a fait à Mary-Yvonne et Marie III, mais il peut le faire aussi pour vous. Hein. Tout est une question de foi. Vous voyez. Par contre, la vie surnaturelle, elle y était de plein pied. Elle était chez elle dans la vie surnaturelle. Ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique. Et ça, on croit chez les saints que ça se fait comme ça. Non. On est comme eux. Par contre, il n'en tient qu'à nous d'entrer dans leur monde. C'est-à-dire de se laisser élargir, hein, de se laisser remplir par la grâce. De ne pas y mettre d'obstacles. On s'en verra après. Appelée encore, donc la grâce surnaturelle, cette vie surnaturelle, est appelée encore grâce sanctifiante ou habituelle. On verra aussi qu'elle s'appelle sacramentelle, la grâce sacramentelle. Tout ça, c'est la grâce, c'est la vie divine, et selon comment on va la recevoir, elle prend une appellation différente. Mais ça reste la grâce avec un grand G. Il n'y a pas plusieurs grâces en Jésus. Hein. C'est la vie divine et c'est la grâce. Et après, selon l'état dans lequel on va la recevoir, elle prend une nomination différente. Ce qui nous est proposé, c'est un enrichissement prodigieux de notre nature humaine. C'est un dynamisme surnaturel. Voilà. Un dynamisme surnaturel. Un élan intérieur. Voilà. Mère Yvonne Émile Mallet III était très très forte hein, physiquement. Elle souffrait de 3 maladies mortelles. Et les sœurs qui vivaient avec elle disaient « On est impressionné par sa légèreté. » Les personnes qui sont fortes souffrent justement d'une langueur. Les déplacements sont difficiles. On peine. Hein, marcher est douloureux. Quelqu'un de svelte, il se place, il ne souffre pas, il n'y a aucune... voilà. Ah ben, elle était dans une vie surnaturelle. Voilà. Elle était légère. Elle se déplaçait. Elle disait oui, qu'elle était... elle frôlait à peine la terre. Voilà. Dieu est maître de ses dons. Donc, prolongement de notre dynamisme naturel. On reste, comme on a dit, un homme. Hein. Par contre, à l'intérieur, cette vie divine va nous surélever, hein, va nous diviniser, donc on va avoir ce mélange. Hein. Alors, je vais m'arrêter bientôt. Comment posséderons-nous cette vie de Dieu ? Parce que l'heure avance. Écoutez la réponse. Elle vient du Seigneur lui-même. Je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi et en moi qui, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, on en est tous persuadés sur le papier, mais sur le terrain, c'est autre chose. Pour recevoir cette vie, il suffit donc d'ouvrir son âme à la sève divine, de s'attacher au Christ, de s'unir à lui, de passer en lui de telle façon que nous puissions dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, le Christ c'est toute ma vie. Et dans la mystique, on appelle ça l'incarnation mystique. Nous, à la Visitation, on a plusieurs sœurs qui sont en odeur de sainteté. Les dossiers qui s'intéressent à leur cause se mettent plus ou moins en place. Mais ceci dit, cette incarnation mystique, où la personne sent réellement, sensiblement, comme Sainte Marguerite Marie, une présence divine l'habitant, existe. Hein, c'est toujours d'actualité. C'est pas... Et du coup, je pense à Sœur Maria Angelica Icaza Alvarez, c'est les années 1936, vivait cette incarnation mystique. Donc, cette parole de Saint Paul, il y a des fois, je me dis, mais est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand on reçoit Jésus à l'Eucharistie, c'est ce qui se passe. Mais après, comment on en vit ? Voilà. Je ne le sens pas présent. Bah, c'est sûr, mais si je ne le sens pas présent, est-ce que je suis déjà attentive à cette présence que j'ai reçue à l'Eucharistie le matin ? Parce qu'en somme, c'est ça l'incarnation mystique. Hein. C'est, je le sens peut-être pas, mais en tout cas, il est là. Et puis, peut-être qu'il peut se faire aussi sentir. Mais je suis tellement à l'extérieur, hein, qu'en fait, je ne vis pas de cette vie divine qu'il me donne tous les jours. Quel moyen le Christ a-t-il établi pour nous communiquer sa vie ? Sa vie est celle de Dieu, puisqu'il est Dieu même incarné. Ce moyen, c'est le baptême. Le baptême est une opération de branchement. Lorsqu'on branche une lampe sur un courant électrique, aussitôt elle brille à l'éclair. Et c'est un petit soleil. Le baptême branche notre âme sur le Christ. À partir de cet instant solennel, le contact divin est établi. Le courant divin où l'eau vive coule en notre âme, elle vit, elle est illuminée. Elle participe à la vie divine que le Christ possède en plénitude comme Fils de Dieu. Et toute notre vie sur la terre va être le travail va consister à développer cette vie reçue au baptême. Alors à cause de l'heure, j'avais prévu bien, je ne ferai toujours trop, mais ça c'est dans ma nature. Et la prochaine fois on verra, parce que ça m'a été éclairant, beaucoup des nôtres, en tout cas, dans notre entourage ou même dans nos familles, ne sont pas tous baptisés. Donc on se dit, si cette grâce sanctifiante n'est accordée qu'à ceux qui sont baptisés, ben, qu'est-ce qui se passe pour les autres hein? Ben oui, on sourit, hein, c'est un peu la grimace, on se dit mince. Alors comment faut-il s'y prendre ? Est-ce que voilà. Alors, je vous partagerai une réflexion quai d'église, bien entendu, de Monsieur Doja sur la grâce sanctifiante. Elle est accordée, bien sûr, à tous ceux qui sont baptisés, mais pas uniquement. Il y a des conditions pour ceux qui ne sont pas baptisés. Alors, là, en partageant ce texte, je suis hors du jugement, parce que je vous dis, il y a des nôtres hein, dans nos familles. En tout cas, j'ai pas toute ma famille rentrée au monastère. Hein, donc, on a aussi tous, hein, on en souffre, des personnes qui ne sont pas justement baptisées. Mais en tout cas, la grâce sanctifiante peut être donnée aussi à des personnes qui ne sont pas baptisées. Donc, on verra les conditions, et je pense que c'est intéressant aujourd'hui de porter aucun jugement, mais en tout cas de savoir d'abord qu'est-ce qui peut nous priver de la grâce sanctifiante, même si on est baptisé, qu'on ne peut pas juger son prochain, même si on ne voit pas à la messe. En tout cas, il peut bénéficier de la grâce sanctifiante. Il y a des situations, en tout cas, qui nous permettront de rentrer dans cette véritable miséricorde avec un grand M. Ça veut dire que je ne peux pas poser de jugement sur qui que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend de la raison éclairée. Et ça, on ne peut pas se mettre à la place de qui que ce soit pour savoir comment sa raison est éclairée. D'accord ? Donc, ce sera ça la prochaine fois, ce qu'on verra ensemble, pour avancer et continuer d'avancer sur comment cette vie divine va pouvoir progresser, croître en moi, on va dire, on l'a dit, grâce sacramentelle, donc par le baptême, par le mérite. Et aujourd'hui, si je demandais comme ça, qu'est-ce que c'est que le mérite ? Est-ce qu'on est capable de donner une définition du mérite ? C'est des choses qu'on connaît, mais de là à donner une définition, moi je me dis que ça peut être intéressant de creuser la question des mérites, parce qu'en tant que garde d'honneur, à chaque heure que vous faites de garde d'honneur, vous accumulez des mérites. Ça je ne savais pas, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que c'est bien de creuser la question, après de voir le sacrement de l'Eucharistie, qui est par le sacrement de l'Eucharistie, pas voir... Moi, ce qui m'intéresse dans la démarche, hein, c'est comment, à travers l'Eucharistie, je vais faire croître cette vie divine en moi, pour en arriver à je suis appelée à devenir comme un Dieu, déifié, pour changer le monde qui tombe sur lui-même. C'est tout l'enjeu de la vie spirituelle. Hein. Voilà. Juste un petit mot, même si bon, c'est vrai, je ne vais pas prolonger parce que je tiens à tenir les horaires parce que vous avez autre chose. Vous avez donc, je vous ai dit, sur la petite tablette, pour ceux qui veulent reprendre des petits livrets pour votre évangélisation, j'ai remis, la circulaire que certains ont reçue, soit par internet ou soit par voie postale, des dates de formation, de l'événement, le temps fort qu'on vivra en septembre pour tous ceux qui ont pris leur engagement au cours de l'année et nous, ceux qui sont de vieux gardes d'honneur, on sera amenés à renouveler notre engagement. Et donc pour ceux qui n'ont, voilà, pour les dates. Alors, c'est justement la petite parenthèse que je voulais faire. Pourquoi j'ai pris la décision, alors d'accord avec ma supérieure, de pas vous renvoyer le mail à quelques jours avant la formation pour vous relancer. Parce que d'une part, c'est vrai qu'on nous dit un clic et puis ça se fait, ça ne le fait pas toujours. Hein. Donc des fois c'est un clic et c'est plein d'embêtements parce qu'il y a plein d'adresses en fait compte qui nous reviennent et qui nous disent que le mail n'a pas été livré. Donc il faut du coup... ça fait des chanceux et des malchanceux, donc certains d'entre vous, ce que je peux comprendre, se plaignent, j'ai pas reçu la relance, donc tout ça c'est des démarches, c'est du temps, et sans vous mentir, moi j'en ai pas de temps, voilà, donc mon temps est à Jésus, et c'est beaucoup de temps passé où je me suis dit dans la prière, parce que je suis un peu choquée de, parce qu'on se plaint du monde qui tourne sur lui-même, et je me dis, on est comme dans une collaboration par rapport à ce mode de fonctionnement où quand vous prenez un rendez-vous chez le médecin, vous recevez par voie postale la convocation que la secrétaire vous a donnée. Bon, moi, en conscience, je prends la convocation qu'elle me donne sur place, sérieusement, je la mets sur mon tableau, parce que je suis aussi infirmière dans la communauté. Donc je la mets sur mon tableau, et puis je regarde quand même de temps en temps en fonction de mon agenda. Intelligemment, bien sûr, je gère les rendez-vous, ça se dit tout seul, quoi. Ah ben non, parce que je dois sûrement avoir un niveau intellectuel tellement faible que je reçois cette convocation, je la reçois par voie postale et je la reçois aussi par Internet. Et je me dis, non, alors, vous pouvez me juger mal, hein, vous avez le droit, je vous autorise. Je me dis, attends, on ne va pas rentrer dans cette... On rentre là-dedans en vous relançant par Internet à la formation. Je collabore à ce système. Alors moi, vous me connaissez un petit peu, je refuse. Donc j'ai dit non. Alors je me dis, on fait la démarche d'envoyer par voie postale, c'est des coûts. Par Internet, les dates, si vous avez envie vraiment de vous nourrir, j'espère en tout cas que ça vous nourrit, eh bien, venez, enfin, vous regardez votre papier, vous mettez un post-it sur le frigo, un autre sur la table de nuit, enfin, puis vous demandez tout simplement à votre bon ange. Et puis si vous ratez la formation, il y a encore Internet. Et puis si vraiment vous y pensez pas, c'est Providence, quoi. Jésus vous donnera par un autre moyen. Enfin, je me dis, c'est un esclavage, quoi. Et donc, je vois, ça me fait plaisir parce que je vois des têtes qui... Donc je me dis, je suis pas complètement à côté. Mais je me dis, là, Jésus, je crois que puis c'est lourd, on va pas se mentir. Hein. On a une vie dense, hein, cet office, 1h30 d'horizon, il y a beaucoup, enfin, comme il y a une grande pauvreté dans le monde, on est beaucoup, beaucoup, puis il y a aussi tout les travaux qui commencent. Hein. Voilà, la vie, elle est dense pour vous comme pour nous. Et ça, c'est notre monde qui veut ça, ça fait partie des mortifications qu'on n'a pas choisies, mais qui sont là, auxquelles on dit oui, mais qu'il faut vivre. Donc voilà, donc du coup, dorénavant, ce sera comme ça. Voilà, merci de votre compréhension. Et puis, je vous dis, petit texte là du Père Max, si ça peut vous aider. On termine par la prière. J'espère qu'il n'y a pas de questions. J'ai dépassé largement. Et en tout cas, en grande union pour la solennité de Saint François de Sales, notre Saint fondateur et protecteur de la guerre d'honneur. J'ai aperçu frère Bertrand, j'ai pas eu le temps, mais on en parlera la prochaine fois. J'avais pourtant bien en tête, qui donc s'est bien rendu à Paray-le-Monial pour la rencontre de tous les responsables des centres de garde d'honneur, hein, qui a été donc heureux de cette rencontre. Elle s'est bien passée, touchée de, et moi aussi ça m'a touchée dans ce petit compte rendu du réveil, hein, de toutes ces personnes qui portent ces centres. Et du désir, hein, justement de consoler le cœur de Jésus, d'employer les moyens. On voit l'urgence. Des gens qui disent qu'il faut que l'Église se réveille. Il faut qu'elle se réveille, l'Église, quoi. On veut du vrai, hein, on veut quelque chose d'authentique. Et le cœur de Jésus est authentique, hein, pour nous consoler et pour justement être la réponse à tous nos maux. Alors, mots personnels, mais mots de notre société. Et il y a aussi cette démarche, quand j'en saurai plus, je vous en parlerai davantage, ils ont évoqué le fait que la base demande aux évêques de France la consécration de la France au Sacré-Cœur. Donc il y a des démarches qui vont être, en tout cas que ça vienne du peuple, qu'on écrive à nos évêques en sollicitant, il serait peut-être temps de demander à Jésus de renouveler, parce qu'en fait, la France, elle est consacrée au Sacré-Cœur. Mais de renouveler cette consécration, on renouvelle notre consécration à Jésus tous les jours, des fois, c'est pas une fois tous les 10 ans, surtout quand on sait la vérité, qui est un grand V, est mise à mal. Hein, donc voilà. Donc en grande union, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On se confie à Marie à travers l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Joseph, Saint Jean, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie, Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini, Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes, Sœur Marie du Sacré-Cœur, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon dimanche, profitez du soleil. Voilà, une belle journée, hein, ceci dit. Même si... Oh. Ah oui, pardon. Ah, très juste. Voilà, et du coup, on regarde le papier. Le 24 février. Ouais, merci. Voilà, en grande union de prière. Bonne continuation. Voilà, bon retour. Pardon pour le retour. Bien sûr, oui. Oui.
Alors, j'ai entendu dire, ça fait déjà longtemps, que ça ne serait pas la véritable date de la naissance.
Oui,
par qui, je ne sais pas, cette date du 25 décembre aurait été inscrite pour les raisons que vous avez données tout à l'heure, mais ce serait probablement en septembre, autour de septembre, compte tenu de la présence des bergers.
Oui, tout à fait, dans les champs.
Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'en pense ce qu'en pense l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur mon calendrier liturgique, c'est le 25 décembre. Donc, du coup, je fête le 25 décembre. Je ne vais pas plus loin. Après, chacun, je peux penser ce qu'il veut, on va dire. Hein. Par contre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que, de fait, il y avait la présence des bergers et tout ça. Par contre, je vous dirais que Jésus, il est, en tout cas l'Esprit Saint n'est, en difficulté pour faire venir des bergers à ce moment-là. Il n'y a aucun souci du côté de Dieu, parce que derrière, toujours avec Dieu, il y a une démarche spirituelle. Il n'a pas fait déplacer les bergers pour les bergers, il y a toute une démarche spirituelle derrière. Par contre, ce qui me convient, et ça je pense que c'est tout à fait dans la démarche du bon Dieu, dans son langage, c'est que naissait pour les païens, enfin il faisait naître le soleil, et notre vrai soleil c'est Jésus, pour moi c'est plus, enfin on va dire c'est tout à fait plus, c'est plus respectable et plus vénérable le fait qu'ils choisissent de supplanter, voilà, hein, regarde, à chaque fois il utilise quelque chose de profane pour le christianiser, et ça me va très bien, moi. Et surtout quand on voit, après, vous voyez, l'Eucharistie sera mis dans un soleil. Enfin, c'est pas, voilà. Et on voit les rayons, ça fait partie des prières. Hein, dont on retrouve tout ça. Donc moi, ça me va très bien, 25 décembre. Ouais. Par contre, est-ce que c'est vrai? Mais il faut faire attention. Est-ce qu'on a besoin que ce soit vrai? Et ça, c'est toujours pareil. Non, il y a bien des choses dans les évangiles qui ne sont pas vraies, mais c'est pas pour autant qu'on n'y croit pas. C'est deux choses différentes. Hein? On ne croit pas parce que je peux le vérifier, c'est vrai. C'est la création ne s'est pas faite en 7 jours. Mais on ne sait pas pour autant que, parce qu'aujourd'hui on entend ça, que la manière dont l'évangile nous relate, enfin l'Ancien Testament nous relate la création. Ah bah de fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais c'est pas pour autant que Dieu n'est pas à l'origine du monde. Vous voyez? Et aujourd'hui, ah bah du coup, c'est des fables. Donc, on descend du singe. Non, on descend de Dieu. Voilà. Voilà. Allez, bon retour. Merci.